Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade, comme tous les jeudis. Nous sommes autour de la table du studio, aujourd'hui en compagnie de Fabrice, Karine, Corentin et Manon. Merci à vous d'être là et merci à Célia Lafont qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Célia est notre invitée fil rouge et donc ce que je vous propose à vous toutes et tous qui êtes là, c'est de vous saisir du micro, de lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser, libre à elle d'y répondre ou de vous poser aussi des questions. Et il y aura aussi de la musique, en plus d'un téléphone qui sonne. Si tout ceci vous parvient dans vos oreilles, c'est grâce à la complicité technique de Pascal et Dominique.
Le direct.
Célia, vous avez une multitude de cordes à votre arc. On va en évoquer quelques-unes au cours de cette émission. Et la première question que j'ai envie de vous poser vient d'une expression qui date des années 1970. Cela ne nous rajeunit pas complètement. Avez-vous la frite ?
Bonjour Marie-Claude et à tous les autres. Est-ce que j'ai la frite ? Ben, je suis très contente d'être là, alors je vais dire oui.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire avoir la frite, vous qui êtes autour de la table ? Éventuellement Karine, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Juste prendre un micro.
Avoir la frite, je dirais que c'est avoir de l'énergie et de la motivation.
Exactement. Avant 1970, on disait avoir la patate. Et puis du coup, ben, la frite, forcément, descend de la patate. Et donc aujourd'hui, on a la frite, effectivement. Plusieurs cordes à votre arc, je l'ai dit, Célia. Et parmi elles, l'enseignement des langues, dont le français. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement ?
Moi, j'ai toujours eu un moteur de la transmission, en tout cas. J'aime bien ce qui m'a fait du bien, ce que j'ai pu comprendre, j'aime volontiers partager. Les langues, parce que j'aime communiquer avec les personnes, j'aime savoir leurs histoires. Donc, c'est un moyen de communication. C'est surtout ça.
Quelles sont les langues que vous enseignez ?
Actuellement, c'est le français. Pour des personnes en voie d'alphabétisation, ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas eu la chance ou peu eu la chance d'aller à l'école dans leur propre pays. Donc il y a un double apprentissage, ils apprennent le français et l'écriture et la lecture en même temps. Voilà.
Le français, c'est une langue facile à enseigner ?
À l'oral, plus facilement qu'à l'écrit. Non, c'est difficile, c'est une langue difficile.
Quel est pour vous le plus beau mot de la langue française ?
Le plus beau ?
C'est une colle, hein ?
Ouais.
Et vous qui êtes autour de la table, est-ce qu'il y a un mot qui vous plaît le plus en français ? Le silence n'est pas dérangeant en radio, Karine.
Moi, un mot qui m'a toujours fascinée, c'était le mot « éphémère ».
Pourquoi ?
Parce que je trouve qu'il... Déjà, c'est un beau mot, éphémère, je trouve que c'est doux. Et puis, il y a cette notion d'intemporalité, de fragilité. Et il y a le mot mère aussi dans éphémère. Voilà, je trouve qu'il est assez complet.
Ça, c'est le particularisme du français aussi, de pouvoir avoir deux mots en un. C'est quelque chose que vous confirmez, Célia ?
Oui, je pense à d'autres mots.
Mais c'est vrai qu'éphémère est un très beau mot. Et vous, Corentin, est-ce qu'il y a un mot que vous aimez particulièrement dans la langue française ? Comme ça, non ? Fabrice ? C'est difficile, hein, je ne vous ai pas posé les questions avant, vous les prenez à froid comme ça.
Moi, j'aime bien le mot sublime.
Pourquoi ?
Je pourrais pas exactement l'expliquer, mais la sonorité, je suppose.
Avec les consonnes, le S, le B, le M.
Oui, je pense.
Et vous, Manon ?
Moi, je dirais nostalgie. Je sais pas vraiment dire pourquoi, mais je sais pas, c'est un beau mot et je sais pas, dans la vie, on est souvent nostalgique, donc je trouve que c'est un beau mot. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la nostalgie ?
Bah, c'est, je sais pas, se rappeler des souvenirs qu'on avait, enfin, qu'on a vécu, ou des choses.
C'est pas quelque chose de triste,
hein ? Non, pas forcément. Enfin, pour moi, quand je suis nostalgique, c'est des moments heureux.
Célia ?
J'en ai un. Gargouillis.
Ah oui, on a une belle palette, là. Et pourquoi gargouillis ?
Pour les consonances.
Ah oui.
Je trouve que ça ressemble à ce que ça veut dire.
Tout à fait. Bah, il en manque un, Corentin. Un petit mot. Que vous aimez bien.
Franchement, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête.
D'accord. Bah, peut-être au cours de l'émission. Si vous avez une idée, vous me faites signe et puis on revient. On a éphémère, nostalgie, sublime, gargouillis. On pourrait presque faire un rap, peut-être. Je ne sais pas. On va essayer. Non, je plaisante. Pouvoir s'exprimer en plusieurs langues, c'est aussi quelque chose que vous maîtrisez, Célia. Alors, il y a le français, il y a l'espagnol, l'italien,
l'allemand,
l'anglais et d'autres ?
Un peu la langue des signes.
Ok. Et puis, il y a le grommelot.
Oui.
Hein, on va parler de cette langue tout à l'heure.
D'accord.
D'accord. En quelle langue rêvez-vous ?
Actuellement, en français.
Et vous, autour de la table, vous rêvez en quelle langue ? Karine ? Corentin ?
En français.
Fabrice ?
Je ne saurais pas dire.
Manon ?
Aussi en français.
Quand vous dites, Fabrice, que vous ne sauriez pas dire, ça veut dire quoi ? Que vous ne vous souvenez pas de vos rêves ? Ou bien vous rêvez ou vous ne parlez pas ?
Alors, je rêve souvent, j'ai même des rêves vivides, mais je n'ai pas fait attention en quelle langue. C'est tout.
D'accord. Bah écoutez, c'est peut-être une chose à expérimenter, de savoir en quelle langue on rêve. Ça peut être toujours intéressant. Hein. On va revenir donc à ce grommelot dans un instant, parce que Pavillon Nomade donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas forcément. Et ceci tous les jeudis en direct de 15h30 à 16h30, ou quand vous le voulez aussi à la réécoute sur le site www.pavillonnomade.ch. On va revenir à ce grommelot, on va revenir à vous Célia, on va revenir à vous toutes et tous qui êtes autour de la table, mais on va aussi écouter un petit peu de musique durant cette heure de rencontre. Et je vous ai demandé, Célia, quelle musique vous souhaitiez entendre. Vous en avez sélectionné quelques-unes, dont celle-ci. Thank you. On vient d'entendre la scène finale de ce magnifique ballet, Le Lac des Cygnes, une musique composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski. C'était un choix de Célia Lafont. Pourquoi ce choix ?
Parce que c'est déjà un excellent souvenir. Ma maman étant, enfin, elle était danseuse classique. Le dimanche soir, on avait le droit à la vidéo où elle nous racontait l'histoire. Et avant qu'on ait la vidéo, ben, on écoutait la musique. Et puis, elle nous racontait l'histoire. Ce qui fait que quand elle était prise à la cuisine pour préparer le repas avec ma sœur, on était déjà en chemise de nuit, après le bain, et on faisait des pas de danse sur le parquet, comme ça. C'était la liberté, quoi. C'est génial. Pour moi, c'est ce souvenir de... où tu suis, tu te fais... manger par la musique, quelque part.
Oui, et c'est une bonne question que j'ai envie de vous poser ou de vous faire suivre à vous qui êtes autour de la table. Est-ce que vous avez des musiques qui vous emportent, Manon ?
Moi, en soi, toutes les musiques classiques, vu que j'ai fait de la danse classique et que c'est un peu ma passion, en soi, toutes les musiques classiques, ça me donne envie de danser.
Donc le lac des Cygnes, par exemple,
ouais.
Ça vous donne envie de danser?
Oui.
C'est tellement beau. C'est vrai. Et vous, Karine?
Alors moi, dans le grand général, mais c'est à chaque fois qu'il y a du violon. Voilà, c'est pas vraiment un morceau précis. Mais j'ai une espèce d'amour très fort pour le violon et que ça me fait beaucoup de sensations.
Je crois qu'on va en parler du violon, mais on va continuer le tour de table. Corentin, est-ce que vous avez une musique qui vous emporte ?
Pas forcément une musique, mais j'ai un chanteur. J'aime beaucoup Johnny Hallyday.
Le patron, le taulier.
C'est ça.
Et vous, Fabrice ?
Alors moi, il y a des musiques qui m'emportent dans l'esprit et d'autres qui m'emportent dans le corps. Ça dépend le rythme de la musique, ça dépend quelle musique c'est, mais ouais.
On va continuer de parler de la musique, mais Dominique nous a fait une réflexion intéressante pendant qu'on écoutait Tchaïkovski. On parlait des rêves avant, des possibilités de rêver dans une langue étrangère ou dans français ou d'autres langues. Est-ce que vous rêvez aussi en musique ? Ça vous arrive-t-il ? Manon ?
Pas forcément. Enfin, il peut m'arriver d'avoir... des musiques dans mes rêves, hein, où je suis en train de danser, mais c'est tout.
Et vous vous réveillez avec la musique ou bien ça...
Oui, des fois.
Des fois, ça vous reste dans la tête?
Oui.
Et vous, Célia?
Oui, moi ça m'arrive, ouais.
Et vous rêvez de quelle musique?
Ça peut être de la chanson française. Des fois, c'est un petit air, un tout petit bout d'une musique que je me chantonne en boucle après toute la journée aussi, ça m'arrive.
Mais c'est quelque chose qui reste dans la tête. Mm-hmm. Vous, Karine ?
Alors moi, je dirais non. Je rêve pas forcément en musique ou alors je me rappelle pas forcément quand je me réveille. Et en général, tous mes rêves sont... Il n'y a pas de son dans mes rêves. Donc s'il y a deux gens qui parlent, je vais pas les entendre. Donc la musique, non plus. Ça me reste pas dans la tête.
Non. Et vous, Corentin, avec quelle musique quelle musique de Johnny vous vous réveillez le matin? Quelle chanson?
Aucune. Le plus souvent, je ne me rappelle pas de mes rêves. Mais quand je me rappelle, non, il n'y a pas de musique.
Et s'il fallait choisir une chanson de Johnny, ce serait laquelle?
Seul.
Pourquoi ce choix?
Je ne sais pas, c'est ma préférée. J'aime bien les paroles. Et puis, voilà.
Et vous, Fabrice?
Ça dépend en fait. Si la musique je l'ai entendue en fait quelques jours avant ou plusieurs fois dans la journée, elle va me rester en tête et je vais la rêver. C'est inévitable. Et puis sinon, de temps en temps, je rêve aussi en musique. Je chante, je me réveille avec la chanson, mais j'oublie peut-être 5 ou 10 minutes après que je me sois réveillé, je l'oublie complètement.
Célia, est-ce que vous jouez d'un instrument ? Parce qu'on l'a entendu dans cette musique magnifique de Tchaïkovski, il faut un grand orchestre, il y a une multitude d'instruments de musique, des bois, des cuivres, des percussions, des cordes. Et vous, vous jouez d'un instrument ?
Ben, j'ai eu joué beaucoup de violon.
Ah ben, vous rejoignez Karine, alors.
En ce moment, il dort. Je le ressors pas très souvent. Pas très souvent, ça me manque. J'aimerais bien jouer dans un orchestre, en tout cas avec d'autres personnes. Mais reprendre le violon puis travailler toute seule, j'ai moins d'appétit.
Ah oui, c'est pas qu'un petit peu. Vous n'avez pas joué juste comme ça pour le plaisir. Vous avez fait des études musicales ?
Oui.
Ok.
Oui.
Le violon, c'est un instrument facile ou difficile ?
C'est plutôt un instrument difficile, mais plein de subtilités. Et du coup, je trouve que c'est un instrument très intéressant et on traverse les genres aussi dans la musique avec le violon. Ça m'a toujours beaucoup touchée. Il y a beaucoup, beaucoup de pays avec des musiques folkloriques, on a le violon. Ouais. Et j'ai effectivement une sensibilité, comme Karine, pour le violon, mais les instruments à cordes en général. Je crois que c'est la vibration. Voilà. Et puis ce que j'aimais beaucoup aussi avec le violon, c'était la sensation physique de sentir sur la clavicule les vibrations de l'instrument. Et du coup, ça nous remplit, quoi. La musique, quelque chose d'enveloppant. J'aurais bien voulu être violoniste, oui.
Et vous, Manon, est-ce que vous jouez d'un instrument ?
J'ai joué pendant très longtemps d'un instrument. Enfin, j'ai changé plusieurs fois. Au début, c'était... Oula, je sais même plus comment ça s'appelle. Ah oui, le cornet. Et après, j'ai fait de la batterie pendant assez longtemps. Et là, je joue seule du piano, mais je prends pas de cours ni rien. Mais vu que j'aime bien les musiques classiques, y en a beaucoup qu'on peut jouer au piano, donc j'aime bien.
Lesquelles, par exemple ?
Je ne saurais pas dire de tête comme ça, parce que je me rappelle très rarement des noms, mais il y en a énormément.
Est-ce que vous avez un musicien qui vous plaît plus en piano ou pas
en
forcément ?
En général, c'est juste genre, je vois des vidéos TikTok sur des musiques faciles à jouer au piano et du coup, je vais essayer de les jouer.
Ah ouais, c'est déjà très très bien ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde le piano. Il faut apprendre. Donc vous avez appris le solfège aussi ?
Oui.
Ouais. Et vous, Karine, vous aimez le violon, mais est-ce que vous jouez d'un instrument ? Ou avez joué d'un instrument ?
Oui, alors moi, j'ai commencé par du piano, alors que j'en avais aucune envie. Puis après, de la guitare, alors que j'en avais aucune envie. Puis en fait, je disais à mes parents depuis 4 ans que je voulais faire du violon, et puis ça... Ils disaient non, ça va nous casser les oreilles.
C'est le risque avec le violon au début, hein.
On
ne
veut
faut pas,
pas
se le cacher
avoir
quand même.
Subir ça pour avec tes fausses notes, tes machins. Donc, non. Et donc, voilà. Après, je suis très passionnée de musique, mais j'en joue pas. Je vais plutôt aller les voir en concert ou les écouter comme ça. Et j'en joue pas.
D'accord.
3 ans quand même, hein, pour que le violon soit un peu agréable.
3 ans ? Ah oui ?
Ouais.
Oui, c'est quand même une période.
Ça a été trop pour mes parents. Mais je regrette, j'aurais vraiment voulu être violoniste. Voilà.
Bon, comme on dit toujours, c'est jamais trop tard. Hein.
Ouais.
Franchement. Alors bon, pour le violon, c'est vrai que c'est 3 ans assidus. Mais c'est jamais trop tard. Moi, je crois qu'on peut à tout âge apprendre. Et je ne sais pas, c'est quelque chose que vous confirmez, Célia. Par exemple, pour le violon, on peut le commencer à n'importe quel âge. Hein.
Moi, je pense, oui.
Oui.
Pardon. Oui, quand on a envie, il faut essayer. À tout âge.
C'est ça.
J'y ai pensé aussi à... Parce que ma fille aussi, elle veut faire du violon. Donc je me suis dit, ben tiens, on pourrait aller les deux apprendre ensemble. Mais enfin, on verra. C'est du projet pour l'instant.
Mais oui, mais ça peut être un beau projet. Moi, je suis persuadée que, comme vous, Célia, on peut commencer à tout âge un instrument. Mmh. Je parle pour moi. Hein. Je viens de commencer la guitare. Mmh. Alors que je viens du piano. Et qu'en plus, je me suis retrouvée gauchère à la guitare. Donc, autant dire que j'ai bien complexifié le tout. Donc, et c'est dur, hein, parce que... Ouais. Là, je sais quelques accords, mais c'est pas évident du tout. Mais j'adore ça. Donc, allez-y, franchement.
Ouais.
Je
vais y penser.
Vraiment,
ouais.
C'est chouette. En plus, si votre fille a envie de faire du violon, donc ça peut être vraiment très chouette. Et vous, Corentin, un instrument de musique, peut-être ?
Aucun instrument, non.
Même pas la guitare de Johnny ?
Non, même pas.
Non, mais vous aimez la musique.
J'aime la musique, oui, c'est pas... Oui, j'aime la musique.
Et vous, Fabrice ?
Alors moi, pas d'instrument, hein. J'ai l'oreille musicale. J'utilise de temps en temps ma voix, mais pas d'instrument. Non.
Ah ouais, l'oreille musicale ?
Oui.
Ah, quand même.
Pas absolue, mais musicale.
C'est pas mal. Mais je viens de lire un article comme quoi il y a des scientifiques. L'oreille absolue, on dit, certaines personnes. Je sais pas, Célia, est-ce que vous avez l'oreille absolue ?
C'est une histoire d'exercice, en fait. Ouais, moi, je bafouille, mais aujourd'hui, je l'ai moins. En tout cas, ça, c'est clair. Mais avec le violon, comme on doit vraiment chercher la note juste, entre guillemets, et puis après, on apprend à jouer juste un petit peu en dessous ou un petit peu en dessus. Il fut un temps... je parle au passé, ça. C'était le cas. Je me dis, oh, mais celui-là, il joue trop faux.
Ouais.
Mais,
on rappelle juste que c'est l'oreille absolue.
L'oreille... Ben, c'est...
Non, allez-y.
Pardon. C'est quand vous entendez parfaitement si la note qui est jouée est jouée correctement, et vous savez la nommer. Vous savez laquelle.
Voilà, si c'est un do, si c'est un mi, si c'est un ré, ouais. Et tout ça. Mais d'après l'article et d'après les scientifiques qui ont fait cette étude récemment, ils disent que c'est possible de travailler et à tout âge d'arriver à cette oreille absolue. C'est pas une question d'âge de dire on a l'oreille, on naît avec l'oreille absolue et puis tant mieux. Non, on peut vraiment la travailler. Ils ont fait des études en ce sens avec différentes personnes et ils arrivaient très bien à reconnaître certains les notes. Mais bon, c'est un exercice d'oreille quoi, effectivement. Et ça c'est intéressant. Je me dis pour ceux qui n'ont pas l'oreille absolue comme moi. Peut-être que j'arriverai une fois à avoir l'oreille absolue, c'est ça qui est chouette. Bah, vous avez peut-être, pourquoi pas Fabrice, vous arriverez à avoir l'oreille absolue. C'est un travail d'oreille en fait. Moi je trouve ça très intéressant.
Oui, alors moi ce qui se passe c'est que je peux reconnaître quand c'est faux, hein. C'est tout le temps. C'est tout à fait naturel, je reconnais quand c'est faux. D'ailleurs c'est un peu embêtant parce que c'est vraiment très précis. Par contre je ne serais pas nommé parce que je n'ai pas fait de solfège. Voilà. C'est pour ça que je ne dis pas absolu.
Pas loin de l'oreille absolue. Un autre art que vous pratiquez aussi, et en ça vous rejoignez Manon, c'est la danse.
Oui.
Sauf erreur.
Oui. Bon, alors, fille de danseuse, j'ai commencé à 6 ans la danse classique. Et puis, je préférais la danse au sport. Donc, c'est quelque chose, une activité qui m'a accompagnée longtemps. Mais j'étais toujours la dernière, hein, celle du fond. J'avais pas beaucoup de souplesse, pas beaucoup de qualité pour la danse. Et puis, je continue une fois par semaine dans un cours de modern jazz et j'ai toujours les réflexes de la danse classique avec les pieds comme ça, hein, écartés. Et puis, on se marre beaucoup. Parce qu'il y a des choses qui me sortent comme ça. De mémoire corporelle.
Et vous, Madon, vous pratiquez encore de la danse ?
Là, je ne peux pas trop, vu que j'ai eu un accident et du coup, je suis blessée. Mais quand je pourrais, j'aimerais bien reprendre parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Et c'est de la danse classique ?
Oui.
Il me semblait avoir lu, Célia, que vous dansiez aussi le tango.
Oui.
Vous l'avez appris où ? En Suisse ou en Argentine ?
En Argentine, où j'ai vécu un certain nombre d'années.
Vous avez vécu combien de temps en Argentine ?
7 ans.
Ah, waouh !
Ouais.
Ah, c'est un parcours.
Puis là, c'était tout un apprentissage à deux, avec mon compagnon, qui était plutôt du style Robocop. Et on est tombé sur un prof incroyable, qui nous a vraiment convenu. Et on a réussi à se débrouiller, quoi.
Ouais, 7 ans, je pense qu'on arrive pendant 7 ans à se débrouiller en tango quand même.
Oui, oui.
Vous avez vécu où en Argentine ?
Vécu à Buenos Aires même. Et puis après, on a fait des petits voyages depuis Buenos Aires, mais on a vraiment vécu à Buenos Aires.
C'était un choix comme ça de partir en Argentine ou...
Alors moi, j'avais très envie de partir de la Suisse. Et puis Pierre, à ce moment-là, connaissait l'Argentine et moi, j'avais posé des conditions. Dire, ouais, on part de Suisse, mais j'aimerais pouvoir m'intégrer assez rapidement en tant que femme et pouvoir apprendre la langue rapidement aussi. Et du coup, c'était un projet qui me convenait. Je suis partie avec lui faire un voyage préalable et j'ai fait des belles rencontres. J'ai aussi travaillé dans une petite ONG en dehors de Buenos Aires, ça c'était à Cordoba, où j'ai trouvé les gens juste tellement sympathiques et chaleureux. Et voilà, c'était une belle leçon d'humilité en fait. Donc j'ai dit, ok, on peut y aller. Mais on n'était pas parti pour partir 7 ans. Bon, ça a été un peu la surprise.
Que gardez-vous de ce séjour argentin?
Ben voilà, beaucoup d'humanité. Quand il y a un mendiant dans la rue, les gens s'arrêtent pour discuter, partagent un petit moment avec ces personnes-là. Je garde beaucoup de bons souvenirs, de l'effervescence, de l'encouragement. Comme beaucoup de personnes ont un travail qui les intéresse peu, ils font une quantité de choses à côté. Et ils font même des formations, ils suivent des études. Ils sont très polyvalents comme ça. Et c'est peut-être une conséquence de tout ça, mais il y a moins de clivage. Les gens sont moins dans des boîtes. Ah, toi, tu fais ça, alors tu dois être comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très, très beau, en fait.
Mmh. Oui, et important à l'heure actuelle.
Et comment?
Les voyages, les autres pays. C'est quelque chose que vous aimez, que vous avez découvert, Corentin, par exemple?
Alors moi, j'ai voyagé pour partir en vacances avec mes parents, quand j'étais plus petit. Mais le plus beau voyage que j'ai fait, je dirais que c'est la Thaïlande. Comme vous dites aussi, justement, beaucoup d'humanité là-bas. Ils sont aussi... Je dirais qu'ils vivent un peu one life. Par exemple, on était à un souper dans un restaurant. On devait aller aux toilettes avec ma mère et ma sœur. On nous a pris les quatre sur un scooter pour aller aux toilettes parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Enfin, c'est des trucs qu'on voit que là-bas, quoi.
Oui, et puis c'est des images qui nous restent. Hein. Ouais.
Ouais, c'est magnifique.
Et vous, Karine?
Alors, nous, moi, j'aime beaucoup les voyages aussi. J'aime découvrir les nouvelles, des autres façons de penser et de vivre. Nous, on a tout quitté avec le papa de ma fille pour partir à travers le monde. Donc, on a voyagé un peu plus d'une année, puis on a vu pas mal de pays. Et mon coup de cœur à moi, c'était la Bolivie. Voilà. Dans tous.
Pourquoi?
Ben, je dirais, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, mais l'hospitalité des gens, t'es jamais dans le... Je ne peux pas dire le mot que je veux dire, je pense, mais jamais embêté.
Vous pouvez.
Même, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider, etc. Et puis, j'ai adoré aussi le fait que, parce que c'est très haut, on était vers La Paz au début, donc c'était très haut, donc on est dans des grands sommets, et après tu fais 12 heures de bus et tu te retrouves dans la jungle. Enfin, toute cette diversité-là.
Oui, tel contraste, effectivement. Oui,
tout ce contraste, et puis tous les enfants dans la rue qui jouent, qui sont libres. Enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment ce climat de peur. En tout cas, bon, là, ça fait plusieurs années mais qu'on a ici. Donc, c'est un peu plus freestyle.
Et vous, Manon?
Moi, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et surtout en Italie, puisque mon père, il est italien. Mais là, notre projet de rêve, c'est d'aller en Thaïlande et au Vietnam. Donc, c'est normalement pour bientôt.
Bientôt, bientôt, tout soudain.
Quand on pourra. Mais si on ne peut pas tout de suite, ça sera cet été. mais on va le faire cette année en tout cas.
Quel magnifique projet. Bah, vous pourrez en discuter avec Corentin de la Thaïlande.
Oui.
Et vous, Fabrice ?
Alors, moi, j'ai voyagé un peu. J'ai aussi vécu dans d'autres pays.
Lesquels ?
Alors, l'Angleterre et le Brésil.
Ah, très Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil. Incroyable.
Oui,
et qu'est-ce que ça vous a apporté, ces voyages ?
D'autres lieux, d'autres cieux, d'autres cultures. Et c'est assez intéressant parce que ce sont aussi d'autres philosophies. Avec la langue vient d'autres philosophies, une autre présentation. C'est complètement différent. Les gens ne pensent pas pareil et ne se présentent pas pareil. Et puis, il y a les latitudes. Avec la chaleur, il y a une autre présentation. Avec le froid aussi. Et même en Angleterre, d'ailleurs. Quand le soleil vient, ce ne sont plus les mêmes personnes. Et puis, il y a les surprises aussi, les paysages qui sont différents. Dans les pays, surtout quand il y a un espèce de mélange dans les pays sous-tropicaux, on peut voir des sapins avec des cocotiers, c'est étrange.
Oui, mais ça, c'est tout le charme des voyages, effectivement. Et quand on a la chance de pouvoir voyager, on découvre des pays, des gens, des atmosphères. Et voilà, et comme tout a du sens, si Pavillon Nomade existe aujourd'hui, eh bien, c'est aussi grâce à ce séjour argentin, puisque vous l'avez dit avec votre compagnon Pierre Funkhauser, qui est écrivain. Lui, il est venu en résidence d'artiste ici à Malevo et il a proposé de créer un espace radiophonique quelque peu semblable à la radio La Colifata à Buenos Aires, qui est la première radio au monde à émettre d'un hôpital psychiatrique. Et bien ici, à notre échelle, à Monte, à Malevo, avec toutes les bonnes volontés de Jimmy, de Gabriel, de Dominique, et bien, et de vous toutes et tous, et bien Pavillon Nomade poursuit sa belle trajectoire. Et c'est magnifique. Et pour illustrer ce séjour argentin et faire un petit clin d'œil à la Colifata, on écoute une de vos propositions. C'est un groupe de rock alternatif latino, originaire, lui, de Barcelone. Alors moi, je ne suis pas très douée en langue. Che Sudaca, c'est juste
ouais.
Che comme le Che, oui. Sudaca comme Sudaca, j'imagine, oui. Qu'on va écouter.
Aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
No tomo té, tomo mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, en euro. Sin papel, ando sin papel.
Más macho por tener un uniforme y a la cintura un pistolón.
Oh, 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 oh.
Y yo me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papel, ando sin papel. Inmigrante ilegal en Euro.
Chesudaka, merci de nous avoir fait découvrir ce groupe qui est en tournée cette année. Et si ça vous dit, ben vous pouvez les entendre à Thun, Winterthur et Langenthal début mars. Donc tapez Chesudaka et vous trouvez toutes les informations sur leur site. Une autre corde à votre arc, Célia, et là je suis certaine que les sourires vont s'afficher. Vous êtes clown et vous enseignez cet art extraordinaire.
Oui, ça fait toujours rire.
Bah oui.
Oui, ça me fait rire aussi.
Parce mais c'est que très bien.
J'ai trouvé dans le clown la possibilité justement de rassembler eh ben, la danse, la musique et la possibilité que rien ne soit parfait.
Comment est-ce que vous êtes arrivée au clown ?
Justement, quand j'étais en Argentine, je ne connaissais pas la langue. Et j'avais très envie de profiter du temps que j'avais là-bas. Et je me suis dit, bah, les cours de théâtre ou comme ça, c'est plus à ma portée. Donc, je vais essayer de faire un tas de choses. Et j'ai commencé par le mime. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il faudrait que j'apprenne à improviser. Je suis arrivée dans cette école où on pouvait choisir différents styles de théâtre, dont le clown. Et j'ai commencé là. Et je me suis dit, mais... C'est bien pour moi, ça. Cette histoire-là, elle me plaît et j'ai plus arrêté de pratiquer le clown. Voilà.
Et vous l'enseignez aussi, on va y oui. revenir. Est-ce que tout le monde a un clown en soi ?
Moi, je pense que oui, tout le monde a un clown en soi. Ça veut dire cette envie de jouer, cette envie de peut-être retrouver une certaine capacité d'émerveillement. D'être en relation aussi dans le jeu et de se découvrir, enfin, quelque part, ou redécouvrir. Tout ça, ça plaît. Et enfin, je pense que tout le monde a ça, en soi.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes autour de la table ? Corentin, par exemple, est-ce que vous pensez que tout le monde a un clown en soi ? Déjà, est-ce que vous aimez les clowns ?
Oui, j'aime les clowns. Est-ce que tout le monde a un clown en soi ? Je pense que tout le monde a une partie du clown en soi, mais pas tout ce que le clown fait. Parce que je pense que c'est compliqué d'être clown.
Je ne sais pas, c'est une question qu'il faut poser à Célia, ça.
Moi, je pense effectivement que tout le monde a un clown en soi. Après, il faut avoir un certain courage pour pouvoir le montrer ou le partager. Parfois, dans certaines circonstances. Après, ça dépend aussi du... On est tous un peu clowns dans la vie de tous les jours. Je pense, quand même. Mais la pratique du clown, effectivement, ça demande aussi un certain apprentissage de technique et de...
C'est un métier, quoi.
Oui, c'est ça. Et moi, je suis partie prenante que le clown ne fait pas toujours rire, mais qu'il est toujours dans le partage. Donc, toute la gamme d'émotions est possible. Et ça, il n'y a pas forcément tout le monde qui est prêt à traverser ça. Ça demande un petit peu de...
Qu'est-ce que vous en pensez, miaque. Karine ?
Alors, c'est complexe comme question, parce que... Est-ce que tout le monde a un clown en lui ? Ça dépend un petit peu comment on définit un clown, déjà. Parce que...
Et comment est-ce que vous le définiriez ?
Justement, je me pose la question. Je dirais que c'est un... C'est une personne qui va justement faire ressentir des émotions sans parole, avec parfois des gestes qui sont un peu caricaturés. Et c'est vrai que pour moi, un clown, c'est vrai, c'est beaucoup plus que faire rire ou... Il y a toute cette dimension de, comme vous disiez, en fait, toute cette palette d'émotions qu'on peut ressentir, quoi, en voyant un clown ou en faisant le clown soi-même aussi. Donc je trouve que c'est... Puis après, il y a le clown aussi qui fait un peu peur des fois avec les films. où là, j'ai l'impression qu'on est une génération de traumatisés des clowns.
C'était une de mes questions, ouais. Effectivement. Pourquoi certaines personnes ont peur des clowns? Parce qu'on est une génération de traumatisés, vous pensez, Karine?
Parce qu'il y a ce film Hit, là, où le clown était terrible, et je pense qu'on l'a tous regardé quand on n'avait pas forcément l'âge. Enfin, je sais pas, moi, j'avais pas l'âge, en tout cas. Et donc, après, il y a un peu cette représentation-là, mais... J'aime bien chez le clown, en fait, ce côté un peu innocent, enfantin, mais tout en étant beaucoup plus que ça. Donc, je trouve assez fascinant.
Que vous en pensez, Célia?
Oui, d'une part, il y a les films, mais il y a aussi le fait que le clown devait se voir depuis loin, quand le cirque, dans l'histoire du clown, quand le cirque est devenu de plus en plus grand. Il y avait de plus en plus de spectateurs. Il fallait qu'on puisse voir le clown avec un maquillage très fort, justement, depuis loin. Et quand un enfant va voir un clown de près, ben, ça, pas quelque chose, c'est comme un masque. Il y a quelque chose d'inhumain, finalement, qui peut faire peur. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Puis il parle fort, et puis... voilà... Les parents poussent, allez, vas-y, va voir le clown. C'est pas une situation forcément très agréable pour les marmots, quoi.
Et vous, Manon, est-ce que vous aimez les clowns?
Alors, à la base, je déteste les clowns. Mais faut savoir que j'ai été souvent à l'hôpital et que j'ai vu les clowns de Théodora. Et depuis, je trouve que c'est incroyable. Et que vraiment, ils transmettent des choses incroyables et bien plus que simplement du rire. Donc, pas depuis, j'aime bien.
Mais pourquoi est-ce que vous détestiez les clowns? Parce qu'ils vous faisaient peur?
Ouais, je sais pas. Je trouvais que c'était un peu flippant. Enfin, je sais pas.
C'est comme le vient de dire Célia, ce masque, ce maquillage était impressionnant pour la petite fille que vous étiez.
Oui.
C'est ça. Et puis les clowns, alors, Théodora, quand ils viennent?
Bah, c'est incroyable. Enfin, même quand on n'est pas bien, ils trouvent toujours un moyen de nous faire rigoler. Et... Je sais pas. Mais j'ai toujours trouvé ça exceptionnel.
Pourquoi c'est exceptionnel, selon vous?
Bah, je sais pas. Ils transmettent, du bonheur, de la joie et... Je sais pas. Juste passer un moment avec eux. Bah, après, t'as de la joie, quoi. Donc, je trouve ça incroyable.
Et vous, Fabrice? Votre rapport au clown?
Je veux dire neutre. Bon, moi, déjà, je trouve que c'est pas nécessairement quelque chose de... Enfin, c'est peut-être en don, mais je pense pas que ce soit naturel, puisqu'il faut déjà l'enseigner. Je vois ça comme de l'ordre dans du désordre ou de désordre dans l'ordre. Et en plus, je me demande, en fait, et c'est ça qui me fait vraiment réfléchir quand je regarde ça, je me dis, en fait, c'est pouvoir, en fait, ça dépend de l'énergie que le clown a. C'est comment passer des émotions, mais sans la parole. Et ça, je trouve ça très fort, mais très compliqué. Et c'est peut-être pour moi, en fait, l'ancêtre du bouffon du roi, en fait, ça s'est démocratisé, peut-être, où il fallait vraiment plaire à une audience, et puis après, c'est devenu un peu pour tout le monde. Mais c'est quelque chose de fantastique, mais il faut qu'il trouve en fait le point. Des fois, on n'a pas envie de rigoler, puis il faut que le clown en fait se débrouille pour trouver qu'est-ce qui va faire rire. Et je pense que je ressens en fait la difficulté par rapport au clown. Peut-être que je suis peut-être un petit peu trop empathique, mais je peux ressentir en fait qu'il faut qu'il trouve en fait le point faible pour pouvoir faire la personne qui est en face rigoler. Donc je suis admiratif, mais en même temps, je trouve ça compliqué.
Célia, est-ce qu'il faut trouver le point faible de la personne qui est en face de vous?
Je pense que c'est le point de connexion. C'est pas forcément le point faible. C'est comme un bon repas. On peut partager quelque chose ensemble. Et puis il y en a un qui dit ça, j'aime pas. Et puis l'autre, il dit ah ouais, ça, j'aime parce que c'est croustillant, parce que si, parce que ça. Mais il y a un fond commun. En fait, on est les deux en train de manger. Pour moi, le clown, c'est pouvoir justement être en relation avec les autres, par le silence aussi. C'est ce qui me plaisait dans l'apprentissage du langage des signes. C'est l'importance du silence. Et dans ce silence, on peut établir
un lien qui fait que ensuite on va trouver la porte d'entrée pour trouver un point commun, quelque chose qui nous rassemble, parce que finalement le clown il est beau pour moi parce qu'il est humain, il rencontre l'autre humain avec ses faiblesses, avec ses limites, avec ses forces, ses lumières.
Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette définition du clown que vient de donner Célia, de rencontrer l'humain, Karine?
J'ai jamais le temps de réfléchir à ma réponse, je suis toujours la première. C'est pas très juste.
J'ai pas fait exprès.
La difficulté du job de clown, vous dites.
Oui, d'aller chercher. Il y a la définition d'aller rencontrer l'autre dans son humanité, ou de la difficulté, parce que je reprends ce que disait Fabrice. Enfin, c'était une question. Est-ce que le clown met de l'ordre dans le désordre ou du désordre dans l'ordre?
Bah, déjà, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de devoir justement briser la glace, entre guillemets, si c'est des gens qu'on connaît pas, et puis et encore plus si tout à coup, enfin, je me mets à la place d'être un clown, et je me dis ça doit être difficile si en fait la personne ne réagit pas, ou si même elle réagit de façon désagréable pour le clown, ou enfin voilà. Je m'imagine que ça doit être difficile. Moi, si par exemple j'étais clown puis que je vais voir un enfant puis que l'enfant il pleure encore plus quand je pars, je sais que je me sentirais très très mal. Et puis je pense justement ça rejoint ce qui a été dit par rapport au courage de finalement se montrer soi, et puis du coup qui peut donner le courage à l'autre de se montrer aussi. Mais c'est, je pense que c'est toute une, tout un apprentissage et toute une école. Et quand on maîtrise un petit peu cette entrée en relation sans la parole, je pense que ça peut amener à des moments magnifiques. Ouais.
Alors, moi, je vais laisser Célia répondre là. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vient de dire Karine, justement, cette relation au clown, ce courage qu'il faut, bah, c'est vous qui l'avez dit, ce courage qu'il faut avoir quand même pour aller chercher son clown. Et puis, on va quand même rebondir aussi, parce que c'est Fabrice qui l'a dit, passer des émotions sans la parole. Mais le clown, il peut parler quand même. Hein. Il a son propre langage. Hein.
Alors oui, il existe des clowns complètement muets, hein, qui n'expriment que par leur corps, tout ce qu'ils ressentent et les actions qu'ils font. Et puis, il y a des clowns qui intègre ce qu'on appelle un langage inventé, le charabia, qui s'appelle le gromelot. Donc, si moi je connais pas le brésilien, mais je pourrais faire voilà, ce serait mon langage gromelot de voilà, par exemple. Et puis il y a des clowns qui expriment avec le français ou d'autres langues aussi, sauf que le clown, c'est quelqu'un qui est, comme tu disais, un peu innocent, mais du coup, pas très intelligent dans son discours. Il va pas construire quelque chose comme au théâtre, où on a des phrases bien construites. Souvent, on aime bien mettre un mot à la mauvaise place, ou répéter, ou avoir un petit travers aussi dans la manière de s'exprimer.
C'est là que le clown met un peu de désordre dans l'ordre.
Complètement. Complètement. Il aime bien faire ça.
Manon, dans les clowns que vous avez rencontrés, certains vous parlaient, ou bien c'était que avec des gestes et des attitudes?
La plupart, quand même, ils parlent, parce qu'ils veulent quand même interagir avec nous. Et c'est aussi ça qui fait que c'est drôle, parce que justement, ils disent des trucs un peu incohérents et souvent, c'est ça qui fait rire.
C'est ça qui fait rire. Hein. C'est aussi la parole, elle est là aussi. Alors, il y a le gromelot, effectivement, où on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais des fois aussi, de parler et puis d'avoir des incohérences de langage. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait rire.
Mm-hmm. Oui, et puis,
des bruits ou c'est considéré comme du texte, en fait, dans le clown. Et on peut dire, je sais pas, on fait aussi des ce qu'on appelle une chaîne de conséquences. C'est par exemple quand je dis « Ah ben oui !»« Non, non !»« Ben forcément !»« Ah ! Ah d'accord !»« Eh ben !»« Ah !» Voilà, ça serait du texte.
Et là, on est d'accord, on a tous ri. Elle n'avait pas son nez sur son nez de clown. Hein. Donc, ça marche. Alors moi, j'ai une très grande admiration pour les clowns et j'ai dans mon panthéon personnel de clown une femme, Annie Fratellini. Et une des questions qui m'a été soumise par Dominique, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus de clowns masculins que de femmes? Il y a beaucoup d'hommes, mais il y a peu de femmes. Pourquoi?
Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de difficultés à être artiste en tant que femme?
Ah, vous pensez que c'est une généralité de ce point de vue-là?
Ouais. Je pense, d'une part, et puis... je vais devoir dire d'autre part, parce que j'ai dit d'une part. Donc, dans l'histoire du clown, c'est un univers assez masculin. Puis après, quand il y a ces histoires de clowns de génération en génération, il y a des femmes qui commencent à apparaître. Il y a des femmes clowns aujourd'hui qui sont formidables, mais c'est vrai qu'elles sont moins visibles que les messieurs. Et pourquoi ça, je ne sais pas.
Vous enseignez le clown. Comment ça se passe concrètement? Quand on se retrouve avec des élèves issus de différents milieux, avec des âges différents, comment est-ce qu'on approche parce qu'il faut aller chercher leur clown. Et forcément, le clown de l'un n'est pas le clown de l'autre. Comment ça se passe comme enseignante? Est-ce qu'on dit maîtresse clown?
Oui, ça se dit. Ouais, ça se dit. Il faut savoir qu'il n'y a pas une école de clowns, hein, comme si on allait faire le conservatoire pour la musique. Parce que le clown, il sort des carcans, justement. Il met le désordre. Donc, il est un peu anarchiste en tant que tel. Et il existe une école de clowns à Paris qui s'appelle le Samovar. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de professeurs différents qui leur injectent du clown depuis différents points de vue. Ce qui veut dire aussi que quand si j'enseigne le clown, eh ben je vais le faire à ma manière, ou bien sûr je m'inspire de certains enseignements que j'ai reçus, et puis je le rends à ma sauce. Donc effectivement, il y a beaucoup d'adaptation aux personnes qui sont là sur le moment. Et la première étape, c'est vraiment d'apprendre à regarder les gens sans avoir peur, sans se sentir gêné, de se laisser regarder. Et ça, c'est une étape qui n'est pas anodine. Et la deuxième, je dirais que c'est... C'est aussi faire confiance à ce que le corps a à dire, parce que le corps sait déjà, et puis se laisser, entre guillemets, perdre le contrôle. Enfin, perdre le contrôle des masques qu'on a dans la société de tous les jours. On doit être poli, on ne doit pas faire trop de bruit, on n'a pas le droit d'insulter les gens, tout ça. Et de trouver sa liberté là-dedans. Prendre, ouais, comme apprivoiser une liberté. Ça vous convient, madame?
Oui. Je reste avec cette interrogation, se laisser regarder. Est-ce qu'il est facile de se laisser regarder? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes autour de la table, Fabrice?
Je pense que c'est difficile. Hein. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est assez compliqué. Je me demande si ça n'aide pas, en fait, tout le maquillage, une forme de masque ou d'armure. Peut-être que ça aide aussi, je ne sais pas.
Corentin? Est-ce qu'il est facile de se laisser regarder?
Pour moi, non. Mais je pense qu'il y a des personnes... Enfin, je pense que c'est inné, en fait. pense qu'une personne qui... Ouais, il faut... Je pense que c'est inné. Il faut être capable de... Je sais pas comment on dit ça.
Quand vous dites que c'est inné, ça veut dire que être capable d'accepter le regard de l'autre, hein?
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis de faire justement le clown devant les gens, c'est... Bah, moi, c'est pas quelque chose que je pourrais faire, par exemple.
Pourquoi ?
Trop timide, je pense. Et puis justement, le regard des gens... Ouais, non, je serais pas capable.
Qu'est-ce que vous en pensez, Célia ?
Moi, je crois que c'est une question de décision à ce moment-là. Si, Corentin, vous auriez envie d'essayer, eh ben, chacun de nous a plein de stratégies pour se cacher. Se dire, bon, ben, je me montre avec mes stratégies, déjà. Je montre comment je me débrouille avec ma timidité. Et ça, en soi, c'est déjà énorme. Parce que c'est déjà laisser les gens regarder comment je fonctionne là, sans en faire plus ni moins. Voilà.
Manon, se laisser regarder.
Alors, moi, je dirais que ça s'apprend, parce que, bah, personnellement, je suis une personne très timide à la base. Et bah, faut savoir que j'ai fait un stage en crèche. Et en faisant un stage en crèche, en fait, bah, la timidité, elle part un peu parce que bah, quand t'es avec des enfants, t'es obligé d'être un peu un clown et d'essayer de les faire rigoler. Au final, tu fais des spectacles devant les parents et bah, t'as plus vraiment cette timidité. Donc, maintenant, en soi, ça serait encore un peu compliqué de faire le clown devant tout le monde, mais je dirais que ça s'apprend.
Et vous, Karine, vous en pensez quoi ?
Alors, pour ma part, je pense qu'il y a vraiment le côté professionnel et le côté non professionnel. Dans la vie, je ne supporte pas qu'on me regarde, par exemple. Mais quand je vais au travail, et puis que j'ai mis mon uniforme de travail, et puis que je travaille, et ben là, il n'y a pas de souci. Là, si des patients me regardent, ont besoin de choses et tout, je ne vais pas du tout être... je m'imagine dans l'inverse, en fait, de devoir être clown. Je pense que je pourrais être clown, même si je ne supporte pas le regard des gens. Parce qu'il y aurait cette notion que ce n'est pas moi, en fait, c'est un clown. Donc, c'est une espèce de personnage que je me crée et que j'utilise quand j'en ai besoin. Donc, je pense que j'arriverai à être clown. Mais sans trop, après... sans trop y penser comme... Hein, je vois ça comme un peu un... J'ai pas envie de dire déguisement parce que je trouve péjoratif. Mais il y a quand même une certaine mise en préparation. Où on devient un peu gentiment ce clown. Qu'on rentre comme ça dans le personnage.
Oui, tout à fait. Alors, je rejoins aussi Fabrice. Je pense que le costume, et pas le déguisement, en temps de carnaval, le costume, le nez, qui est en fait le plus petit masque qui existe, nous cache suffisamment pour nous révéler pleinement. Et je pense que c'est le maquillage, alors ça en rajoute une couche. Effectivement, ça peut être une protection pour nous donner un petit coude aux fesses, là, pour avancer, pour se laisser voir. L'histoire du personnage, je rebondis aussi, dans le sens où, au tout début du travail de clown, on cherche à enlever ses masques et à se laisser percevoir dans sa propre vulnérabilité, authenticité. Et puis, de là, et ben, parce qu'on est tous des êtres imparfaits, on va pouvoir créer le personnage. Dire, ben voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses. À un certain moment, ça m'a desservi dans ma vie. Ben maintenant, je peux le mettre dans le clown, dans le personnage du clown. Dire, ben voilà, un clown un peu psychorigide. Mmh. C'est un clown.
Pourquoi pas ? On arrive au terme de cette émission. On vous écouterait encore bien volontiers quelques minutes supplémentaires. Concrètement, Célia Lafont, si on a envie de découvrir son clown, on vous trouve où ? On vous contacte comment ?
Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Né au vent, comme l'expression. Tout ça, .ch. Tout ça a collé, Né au vent, .ch. Là, vous avez des informations sur les propositions que je fais de stage ou d'atelier. Des informations aussi, peut-être un peu plus poussées, de pourquoi on pourrait faire le clown, à quoi ça pourrait nous servir dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je suis contente de donner des ateliers à Lully-sur-Morge et à Lausanne pour le moment. Et je me réjouis de...
Bah pourquoi pas ? Pourquoi pas, si vous nous écoutez, si vous avez écouté cette émission, de rejoindre la grande famille des clowns. Sur votre site, il y a notamment cette citation. Le clown est un être extravagant qui dépasse toute logique et remplit chaque acte d'une poésie extraordinaire. Et je crois qu'on a tous besoin des clowns actuellement. Je pense que vous en conviendrez, vous toutes et tous. Merci, merci d'avoir partagé cette émission. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment. Merci à Dominique et à Pascal. Cette émission est disponible sur le site www.pavillonnomade.ch. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même lieu. Et on se quitte avec une très jolie chanson interprétée par une de mes idoles, Annie Cordy. Une clown qui nous a enchantés.
Eh, dis, Annie, pourquoi t'es toujours gaie ?
Moi, j'ai un truc, c'est mon secret, Annie.
Eh, dis, Annie, est-ce que tu ne pleures jamais ?
Aussi, mais je sais bien me cacher pour oublier nos petites misères. Écoute bien ce qu'il faut faire. Le matin, dans ma glace, je me fais une grimace.
Oh, je fais le clown.
Quand je bois mon café, s'il n'est pas assez sucré, je fais le clown. S'il fait froid, je grelotte, j'ai le nez qui devient rouge.
Comme tous les clowns.
S'il fait chaud, j'ai une mouche sur le nez, puis je louche. Comme tous les clowns. Car j'ai pris le parti de rire de tout dans la vie. Alors ça boum, je fais le clown.
Et dis, Annie, pourquoi tu danses tout le temps?
Parce que la terre est un volcan.
Et dis, Annie, pourquoi pour toi ça roule?
Ça roule parce que la terre est une boule.
Pour oublier nos petites misères, écoute bien ce qu'il faut faire.
Un agent qui me siffle, je me file moi-même une gifle.
Tu fais le clown. Si parfois mes tatanes